Le journal, Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de l'actualité, l'angoisse et l'incertitude à Rouen après l'incendie de Lubrizol. Une usine classée Seveso, le gouvernement se veut rassurant tout en reconnaissant la pollution provoquée par les suies de l'incendie. Dans l'actualité de ce samedi également, les préparatifs de l'hommage populaire et du deuil national qui vont être rendus à Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. 10 jours d'hommage hors norme, nous dira Laurence Perron. De Jacques Chirac, il en sera également question en compagnie de vos invités à 8h20, Pierre Veil.
L'image de Jacques Chirac avec le dessinateur Plantu et le cinéaste Raymond Depardon. Ils seront là avec nous dans ce studio à 8h20, Serge.
Après les anti-Sissi, les pro-Sissi, les pro-régime actuel, les manifestations se suivent, mais ne se ressemblent pas en Égypte, alors qu'en Afghanistan, la population s'apprête à élire son président. Enfin, à 8h10, le journal des sports présenté ce matin par Hugo Charpentier. Au sommaire, la défaite des Bleus battue hier soir à Paris 3-7-2 par la Serbie en demi-finale de l'Euro 2019 de volley, des Serbes qui affronteront demain les Slovènes en finale.
France Inter.
Alors que le gouvernement se veut rassurant sur la situation à Rouen après l'incendie du Lubrizol, la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui s'est rendue sur place hier, reconnaît toutefois la pollution qui s'est emparée de la ville et l'existence d'un risque sanitaire. Nous allons y revenir dans un instant. Auparavant, l'actualité reste marquée par le deuil qui s'est emparé de la France après le décès de Jacques Chirac et l'hommage que notre pays compte lui rendre. Deuil national lundi, minute de silence dans les stades et les écoles, cérémonie populaire demain aux Invalides. La France se prépare donc à rendre un hommage intense à Jacques Chirac, décédé jeudi à l'âge de 86 ans. Au total, ce sont 10 jours d'hommage hors normes qui se préparent entre d'un côté la famille de l'ancien président et de l'autre l'Élysée pour permettre aux Français, aux proches, aux politiques et même à des chefs d'État étrangers de venir se recueillir au plus près, Laurence Perron.
À personnalité hors norme, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, obsèques hors norme. Les recueils de condoléances ouverts à l'Élysée, la cour des Invalides, qui accueillera à partir de demain 14h la dépouille du défunt président. Tous les Français qu'ils souhaitent pourront lui rendre hommage. Pas de cérémonie, pas de discours, les proches de Jacques Chirac ne l'ont pas souhaité, juste une prise d'armes. Lundi, un hommage solennel en l'église Saint-Sulpice à Paris. À midi, en présence du président de la République, de politiques parmi lesquels les anciens présidents Hollande et Sarkozy, ses anciens premiers ministres Alain Juppé et Dominique de Villepin notamment. De nombreux chefs d'État étrangers sont attendus, on parle de la venue de Bill Clinton aussi. Le trajet du cercueil entre les Invalides et l'église devrait être ouvert au public pour que les Français qu'ils souhaitent puissent saluer une dernière fois l'ancien président. Lundi toujours à 15h, une minute de silence dans les administrations et les écoles. Enfin, à la demande de la famille, précise l'Élysée, un week-end d'hommage aura lieu les 5 et 6 octobre en Corrèze. C'est là que Jacques Chirac a été élu la première fois en 1967.
C'est en effet le week-end prochain que la Corrèze rendra un hommage particulier à l'enfant du pays. La Corrèze, où le musée Jacques Chirac à Saran ne désemplit pas depuis jeudi. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Sébastien Sabiron.
Sur la façade du bâtiment, un grand portrait de Jacques Chirac, tout sourire. À l'intérieur, 3 livres d'or avec des messages très personnels des Corréziens qui l'ont côtoyé à l'image d'Yvette.
Nous avons connu Chirac à ses débuts, quand il a débarqué un soir de novembre 1966. Et alors il venait pratiquement tous les week-ends dans les communes. Tous les équipements qu'on a en Corrèze, c'est grâce à lui. Il a aidé mes enfants, j'ai une grande reconnaissance envers lui. Je suis très triste, vraiment, c'est quelqu'un de la famille.
Et chacun de partager un souvenir, une anecdote, comme cette fête de la myrtille à Chaumeil il y a quelques années.
Il était en train de manger une part de tarte tout seul. Il faisait chaud ce jour-là. On cherchait une place à l'ombre. Eh bien, il a quitté sa place pour nous laisser sa table. Et il a laissé une partie de sa tarte sur la table pour qu'on puisse la finir. Pour vous dire à quel point il était attaché aux gens.
Il vous appelait par votre prénom. Moi, je me rappelle très bien le secrétaire de mairie à Mercœur. J'étais à côté de lui, il me dit, mais il me connaît. Et le secrétaire de mairie, je lui dis, mais allez pour moi.
Portrait sensible d'un homme d'État accessible, à l'écoute, proche des Français, des qualités trop rares aujourd'hui, selon Nicole.
Il était humain, il savait écouter les gens, il savait parler avec eux, il savait communiquer. Il n'était pas sur son perchoir. Malheureusement, ce qui a suivi, ils sont moins humains. Manque beaucoup d'humanité.
Au musée Jacques Chirac de Saran, Sébastien Sabiron, France Inter.
Jacques Chirac, qui en revanche a été sifflé hier soir par des supporters serbes lors de la minute de silence qui a précédé la rencontre de volley France-Serbie en demi-finale de l'Euro. Des supporters serbes qui visiblement avaient décidé de mettre à profit cet hommage pour exprimer leur désaccord sur l'intervention de la France aux côtés de l'OTAN sur des cibles serbes lors de la guerre du Kosovo en 99, année où Jacques Chirac était le président de la République.
8h05, Serge Martin, revenons maintenant sur l'incendie de Lubrizol avec une ville Lille, Rouen et des communes partagées entre inquiétude et angoisse.
Oui, l'inquiétude sur l'attitude adoptée après la pollution déclenchée par cet incendie dans la nuit de mercredi à jeudi et l'angoisse de certains qui se demandent si on ne leur cache pas quelque chose et si les conséquences de cet incendie ne sont pas plus graves que ce que les pouvoirs publics veulent bien laisser entendre. Pour la première fois, les dirigeants de ce site classé à risque donc ont décidé de s'exprimer, des dirigeants qui se sont voulus rassurants au micro de Sébastien Baer.
Les deux dirigeants ont décidé de répondre côte à côte aux questions. Les traits tirés, Frédéric Henry, le président, et Isabelle Striga, la directrice générale, font le récit de ces heures sombres.
Je suis moi-même venue dans la nuit de l'incident, j'ai vu l'ampleur de l'incident et j'ai pensé immédiatement tout de suite aux habitants proches.
Bah oui, on se dit c'est nous, c'est notre entreprise, on n'aurait jamais pensé à ça si vous voulez.
48 heures après le sinistre, le président et la directrice s'interrogent sur son origine.
On est extrêmement étonnés de voir un incendie démarrer comme ça, en pleine nuit, à un endroit où il ne se passe rien.
Le site avait déjà fait parler de lui dans le passé. En 2013, une fuite de gaz nauséabond avait été ressentie jusqu'en région parisienne. Mais depuis, les erreurs avaient été corrigées, insiste Isabelle Striga.
On a tiré beaucoup d'enseignements des incidents du passé. Il se trouve que cet incident est très différent et qu'on ne l'avait pas imaginé dans les scénarios sur lesquels on a pu travailler avec l'administration.
Les dirigeants se disent aussi désolés de l'inquiétude qu'a fait naître le sinistre.
Le panache de fumée était particulièrement spectaculaire, donc je peux tout à fait comprendre que les gens se posent des questions, évidemment.
La surveillance du site et le déblaiement des gravats vont se poursuivre. L'activité reprendra sur les dirigeants sans savoir exactement quand. À Rouen, Sébastien Baer, France Inter.
Et en déplacement hier à Rouen, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est voulue rassurante, tout en reconnaissant toutefois la pollution touchant la ville de Rouen et invitant ses habitants à se protéger, à ne pas toucher sans protection les éléments touchés par les suies.
Direction l'Égypte, Serge, l'Égypte partagée entre manifestations pro et anti-Sissi.
Contrairement à la semaine dernière où quelques milliers de personnes étaient courageusement descendues dans la rue pour manifester leur opposition à la politique menée par le président Sissi, ils n'ont visiblement pas osé retourner braver les forces de police dans les rues de la capitale égyptienne hier, laissant ainsi la place aux partisans du régime en place. Le reportage de notre envoyé spécial Frédéric Médézo.
Sur cette immense avenue où se tiennent les défilés militaires, ils sont des milliers arrivés de tout le pays par autocar ou minibus. Drapeaux égyptiens ou portraits de Sissi à la main, ils ont une obsession, comme Adèle, venue de Port Saïd, ne pas revivre la révolution de 2011.
Ce n'est pas bien du tout. On a beaucoup de problèmes économiques. Et on ne peut pas retourner au 2011 encore une fois. L'Égypte, c'est le cœur de tous les Arabes, les musulmans et les chrétiens. Nous sommes faire la défense pour l'Égypte.
Les pro-Sissi prennent la pause, ils montrent leurs enfants, leurs discours ne sont que propagande. Et à la moindre question gênante, des gros bras en civil surgissent. Et les chants des autres militants couvrent le journaliste insolent. Pas question de gâcher l'opération de propagande. On ne veut pas finir comme la Libye, la Syrie ou le Yémen, explique cet homme, les yeux écarquillés. On sera des millions pour soutenir l'Égypte de Sissi. Hier, il n'était que quelques milliers, mais leur manifestation, joliment filmée par des drones et des caméras télescopiques, a fait la une des journaux toute la soirée. Le Caire, Frédéric Métezo, France Inter.
Et puis, jour de vote ce samedi en Afghanistan. Après deux reports successifs du scrutin, les Afghans sont appelés aujourd'hui donc à élire leur président. Pas moins de 18 candidats, dont l'actuel président, sont en liste. Élection perturbée dès l'ouverture des bureaux ce matin par plusieurs explosions dans différentes villes du pays. Allez, pour refermer ce journal, de la musique. Voilà, vous avez sans doute reconnu Andy d'Erita Mitsuko. L'Erita Mitsuko à l'honneur d'un week-end musical à la Philharmonie de Paris. Comme le signale Corinne Pellissier, deux concerts sont prévus ce soir et l'autre demain. Deux concerts au cours desquels Catherine Ringer reprendra tous les tubes de ce célèbre duo. Deux concerts parrainés par France Inter. Et puis sachez que si vous êtes fan, vous pouvez retrouver sur notre site internet la nouvelle vidéo du Labo signée Rebecca Manzoni et consacrée à la chanson d'Erita. C'est comme ça. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Pierre Veil. C'est comme ça.